Ce matin, c'est un peu particulier, on a pas mal de membres, je pense, qui sont allés pour le revoir de Pierre Lacoste, qui va prendre un poste à Beyrouth, donc qui quitte Cannes. Je pense que beaucoup sont allés à ce rendez-vous. Puis, il y a aussi la rencontre à Grasse de l'Église protestante unie, puisqu'il y a eu une union entre l'Église luthérienne et l'Église réformée. Donc, c'est ce qui se passe ce week-end à Grasse. Et c'est peut-être pour toutes ces raisons aussi que nous sommes peu nombreux ce matin. Mais bon, on fait avec, hein, n'est-ce pas ? Je veux juste remercier chaque intervenant ces dernières semaines parce que ça m'a fait beaucoup de bien, les messages qui ont été apportés par les uns et par les autres. On arrive presque à la fin du chapitre 6 de l'évangile de Jean. Quel chapitre, hein ? Quel chapitre ! Et je ne sais pas vous, mais je me suis régalé. En un mot, je crois que nous avons atteint l'objectif d'être encouragés, peut-être pour certains, poussés à lire, à étudier la parole de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent que le dimanche matin, c'est le moment où on va être nourri, d'accord ? Rassasié. J'espère que ce matin, je vais faire changer un petit peu cette façon de voir les choses. Je vous dis que ça, parce que je crois vraiment que c'est une fausse conception de l'Église locale et de la vie spirituelle en général. J'en dis pas plus. Je vais peut-être pas vous enseigner comme je le fais d'habitude, verset après verset, tout simplement parce que après plusieurs lectures du texte, quelques idées me revenaient constamment. Donc je vais prier, puis on va ouvrir la Bible. Seigneur, merci pour ta grâce et le privilège que nous avons de pouvoir ouvrir ta parole, nous y plonger, regarder, te voir, t'entendre, t'écouter. Merci parce que ta parole, c'est aussi un miroir qui nous reflète aussi, qui nous montre tel que nous sommes. Seigneur, et c'est vrai que quand on se regarde, Seigneur, on ne voit pas grand-chose de bien, pas grand-chose de bon. Et c'est qu'au travers de ta personne, Seigneur, qu'on peut espérer et qu'on peut souhaiter et arriver à devenir ce que toi tu veux que nous devenions. Seigneur, merci pour ce moment privilégié que nous avons ce matin. Et c'est pour ta gloire et en ton nom, Seigneur Jésus, que nous te prions. Amen. Alors Jean, chapitre 6, versets 22 à 40. Après l'épisode de la barque. Le lendemain, la foule restée de l'autre côté du lac remarqua qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dedans avec ses disciples, mais que ceux-ci étaient partis seuls. D'autres barques arrivèrent de Tibériade, près de l'endroit où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut remercié Dieu. Quand les gens s'aperçurent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent dans ces barques et allèrent à Capernaüm, à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui dirent, « Maître, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. » Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » « Quel signe miraculeux fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi ? Que fais-tu ? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert. Comme cela est écrit, il leur a donné le pain du ciel à manger. » Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Il lui dira alors, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus leur répondit, « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et pourtant vous ne croyez toujours pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite le dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. La suite, ça sera pour Manu. On a parlé plusieurs fois d'unité de ce chapitre. Je l'ai un peu perçu comme ça. Versets 1 à 15, multiplication, distribution de nourriture, la foule. Sandwich pour tous, la foule. Chapitre 6, versets 16 à 21, Jésus marche sur les eaux. Transportation, comme nous a fait remarquer Luc, il se retrouve tout de suite sur la rive du lac. Peut-être que ça nous apprend aussi qu'on est dans le déjà, mais en même temps dans le pas encore. Mais on est dans le déjà aussi. On est déjà arrivé, mais on est encore là. Jean 6, versets 22 à 40 aujourd'hui, discours sur le pain de vie. Là, il y a la foule plus les disciples. Alors, il y avait la foule, il y avait les disciples. Là, il y a la foule plus les disciples. Et puis, dans Jean, chapitre 6, versets 41 à 59, ce que Manu va nous apporter d'ici quelques semaines, la communion. Sainte-Seine, la communion surtout, l'Église. Et je dis bien l'Église en tant que communion, car nous, et en l'occurrence Manu, pourrait tomber dans une explication des définitions encore des nombreuses controverses liées à la Sainte-Seine, vous savez, la présence réelle ou non de Christ dans les éléments. Des très gros mots théologiques ont été inventés. Hein, consubstantiation, transsubstantiation, vous voyez, c'est des mots... Et on pourrait se perdre un petit peu si nous tombions dans ces débats. Nous allons finalement nous éloigner du cœur de la pensée de Jean, inspiré par Dieu, au moment où il écrit cet évangile qui porte sa signature. Et finalement, ce n'est pas très important, parce que surtout un dimanche matin, à savoir de qui, Luther, Calvin ou Zwingli, si on se limite à ces seuls théologiens de la Réforme, avaient raison. On ne va pas refaire l'histoire de l'Église un dimanche matin, n'est-ce pas? Surtout que le démarrage de l'Église unie, protestante unie, est en train de se dérouler justement ce week-end. Alors, comme je vous ai dit à l'instant, on ne va pas faire comme d'habitude. Aujourd'hui, on va tous centraliser, tous se focaliser sur ce verset. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il faut dire que là, on a du grain à moudre, rien qu'avec ce verset. Hein. Franchement, waouh. C'est le verset. C'est le verset clé, je crois, du chapitre 6. Jésus a commencé à nourrir la foule avec 5 pains, 2 poissons et marinés, hein, vous vous souvenez, marinés, certainement marinés. Ensuite, il a révélé à ses disciples son identité en illustrant ce qu'il est censé représenter dans la vie de quelqu'un, d'un individu qui a décidé de devenir son disciple. Il est dans ta barque. Il est dans ta barque. Qu'est-ce que ça représente ? Luc nous en a parlé la semaine dernière. Jésus dans ta barque. Et maintenant, il va s'adresser à cette foule qui, comme il le dit lui-même, est plus intéressée par les sandwichs, finalement, que même par les miracles. Ce qui intéresse cette foule, il dit, mais ce n'est pas les signes que je viens d'accomplir, qui viennent de se faire devant vous. C'est parce que vous avez envie de manger, vous avez été rassasié hier. Et Jésus va nous conduire après dans la communion, c'est-à-dire la mise en scène par excellence de la vie chrétienne, la communion, ce que nous avons vu tout à l'heure. les chants, ses enfants, aimez-vous les uns les autres. Les photos, notre église, les amis qui nous ont rejoints. Ça, c'est la communion. Plusieurs mots rendent compte chacun d'une signification possible. Il y a la scène, la communion, l'eucharistie, les agapes. Tout ça, c'est synonyme de repas, n'est-ce pas ? Communion, le désir d'être ensemble, de vivre quelque chose ensemble. L'eucharistie, manière de rendre grâce à Dieu de son amour pour nous. Les agapes, manifestation de l'amour dont nous devons faire preuve entre nous. Mais Emmanuel nous en parlera, je suppose. Mais ce repas, ce pain, ce vin sont d'abord, finalement, la matérialisation de ce qui nous est donné. Tout au long de nos cultes, mais aussi de notre vie de chrétien. La manifestation, la parole. Quelle place tient la parole dans notre vie ? Quelle place tient la parole dans notre vie ? Et c'est un peu cet aspect que je vais essayer de développer aujourd'hui au travers de notre verset clé. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Qu'est-ce que cette parole vous rappelle ? Toujours dans l'évangile de Jean. Un indice. Jean chapitre 4. Un autre indice, une femme. La Samaritaine. Un puits. Jean 4, Jésus lui répondit à la Samaritaine. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Je ne sais pas si je vous avais cité Blaise Pascal quand il dit « Il faut connaître les choses de la terre pour les aimer et il faut aimer les choses du ciel pour les connaître. » Il faut connaître les choses de la terre pour les aimer et il faut aimer les choses célestes pour les connaître. Et c'est vrai, hein, c'était vrai pour cette Samaritaine, c'était vrai pour toute cette foule, mais c'est aussi vrai pour nous en tant que disciples, hein. Et Jésus veut changer notre mentalité. Il veut changer notre façon de penser, notre façon de voir la vie, de voir les choses autour de nous, notre façon d'interpréter les événements. Toutes les choses d'ici-bas sont éphémères, fragiles, amenées à disparaître, tôt ou tard, dans quelque domaine que ce soit. On peut tout perdre à un clin d'œil. En une fraction de seconde. Argent, bien, santé, gens que nous aimons. On a vu dernièrement ces choses-là avec le livre de Job. En un clin d'œil, à un claquement de doigts. En quelques secondes, une ville peut disparaître de la surface de la terre. En quelques secondes, il suffit d'un ouragan. En quelques secondes, devant un médecin, notre vie peut s'écrouler en quelques secondes. Quelques secondes. Tout peut basculer. Tout peut s'écrouler. Une nouvelle. Tous nos espoirs, toutes nos ambitions, tout ce que nous avons acquis, tout peut disparaître en un clin d'œil. Et combien nos vies ressemblent à ces châteaux de cartes écroulés à cause d'une porte claquée. Hein. Je ne sais pas si tu connais la chanson « Le fou sur le sable a bâti sa maison ». On la chante aux enfants dans les colonies. Hein. « Le fou sur le sable a bâti sa maison ». C'est exactement ça. Sur quoi notre vie est-elle bâtie ? Sur quoi notre vie est-elle focalisée ? Sur quoi on se focalise dans notre vie ? Et Jean le dit différemment dans sa première lettre. Il dit « Le monde passe, la convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » 1 Jean 2. On peut essayer de satisfaire notre soif et notre faim par différentes expériences de la vie, différentes choses. Beaucoup de choses peuvent peut-être être des moyens d'échapper au vrai pain, à la véritable eau. Jésus nous dit qu'il est, je suis, ego et mi, la seule chose, le seul être qui peut faire toute la différence. Dans la barque, c'est moi. Ego et mi. On l'a vu, ego et mi, hein, dans le chapitre 6. Hein. Je suis. Waouh. Je suis celui qui suis. Je suis le pain de la vie. Je suis le pain de la vie. Ego et mi. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Jean 6. 48, 49. Ils sont morts. Ralph, un photographe en visite au Cambodge lors d'un voyage humanitaire, dit ceci. J'ai été choqué en voyant manger les enfants de Mol et Tol. C'était comme s'ils n'avaient pas vu de nourriture depuis longtemps et n'en verraient plus de leur vie. Il y avait quelque chose qui relevait de l'urgence dans la manière dont ils mâchaient, dont ils engloutissaient la nourriture. C'était une faim réellement sauvage. Ils avaient en un rien de temps avalé comme si leur vie en dépendait. La faim. On ne sait pas ce que c'est que d'être affamé. Il faut le dire, hein. On ne sait pas trop ce que c'est. On éprouve rarement la véritable sensation de faim. Tu sais, celle qui te... Pas celle que tu expérimentes entre chaque repas, entre le petit déjeuner et le déjeuner. Ce n'est pas celle-là, ça, ce n'est pas la faim. La vraie faim. Cette douleur lancinante qui vient de l'estomac, tu vois. Une détresse physique causée parce que tu n'as pas mangé peut-être pendant des semaines à ta faim, pendant des mois. Jamais tu as été satisfait. Jamais été satisfait. Tu as mangé un petit peu hier, avant-hier, la semaine dernière, mais tu n'as pas été repu, comme on dit. Il reste quelque chose là, une douleur, on s'y habitue, certainement. Ceux qui ont pesé leur bébé pour voir s'il prenait du poids ont compris ces choses. Un bébé qui ne prend pas du poids meurt. C'est vrai, il faut qu'il y ait une courbe. Et une courbe. Et en relisant mes notes des prédications précédentes, finalement j'ai réalisé que je n'avais pas vraiment parlé de la faim. Je n'en ai pas parlé. On a parlé du repas, on a parlé du pain, on a parlé des poissons, on a parlé des disciples, on a parlé de la barque, on a parlé de Jésus, on a parlé de Pâques, on a parlé des miracles, on a parlé de l'agneau de Dieu, mais on n'a pas parlé de la faim. Vous savez, il y a des piliers de comptoir qu'on appelle les bois sans soif. On appelle ces gens-là dans les bars les bois sans soif. C'est les piliers de comptoir. Ils sont au bar, et moi j'ai un bar juste en face chez moi. Et je vois, c'est toujours les mêmes voitures qui sont garées aux heures de l'apéro. Il y a aussi des gens qui mangent sans avoir faim. Peut-être qu'on en fait partie. J'avais jamais fait une distribution de nourriture. Puis que je l'ai fait avec Gaston, je sais un peu qu'il existe ici sur la Côte d'Azur, sur la French Riviera, des gens qui ont faim. Des gens qui sont en train de prendre une soupe dans un gobelet, mettre du sel, alors qu'il pleut, et en train de manger un bout de pain parce qu'ils ont la dalle, quoi. Et ils n'ont rien. Ça existe, même sur la Côte d'Azur. Jésus choisissait bien ses métaphores. Je suis le pain de vie. S'il devait s'adresser aux gens de Cannes, qu'est-ce qu'il dirait ? Je suis le yacht, je suis le lingot d'or, le banquier, la Bugatti. Là, j'ai rencontré un ami qui travaille au Majestic, et ce week-end, là, il y a, comment il s'appelle ? P. Diddy. P. Diddy, c'est un rappeur. Il démarre une chaîne de télévision. Il m'a dit, oh là là, j'espère que c'est un rappeur qui ne va pas faire la bamboula toute la nuit, etc. Parce qu'il va falloir être assez petit soin, etc. Eh ouais. Vous savez, le problème, c'est que pour accéder à la nourriture qu'il représente, Jésus, le pain, cela suppose que nous ressentions de la faim. Une faim particulière, un désir de l'âme, quelque chose qui nous... Quelque chose qui nous... On aspire à manger quelque chose, vous voyez ? Dans les Béatitudes, Le bonheur y est associé. Il dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Alors, la question que je me suis posée, c'est quand est-ce que nous ressentons cette faim spirituelle? À quel moment le pain devient-il nécessaire, urgent, je dirais même? À quel moment? Dans les temps de désespoir, de peur, de chagrin, de joie? Ou peut-être lorsque nous sommes face à des problèmes qui semblent insurmontables, on a faim, comme dans cette barque au milieu de la tempête. Les disciples sont ballottés, il y a l'orage, il y a les éclairs, on va périr. Et là, d'un coup, on se rend compte, comme on dit, hein, les personnes qui sont athées, quand l'avion s'écrase, ils prient. Une question pour toi ce matin. Est-ce que tu es affamé? Est-ce que tu es affamé? Est-ce que tu as faim? Je ne pose pas cette question pour te culpabiliser, hein, parce que je me la pose à moi-même. Et je vous avoue, je réponds, pas assez. Pas assez. Pas assez. J'ai pas assez faim. Je manque d'appétit. Et comme je l'ai souligné au début, l'auditoire de Jésus, aujourd'hui, c'est la foule, c'est les disciples aussi. Concernant la foule, Jésus prononce une parole très importante. Il dit « Tous ceux que le Père me donne viendront en moi, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Alors c'est sûr, cette foule qui a vu un Jésus, allez, un roi potentiel, un libérateur politique, pas le Fils de Dieu, pas le Fils de Dieu. Contrairement aux disciples dans la barque, parce qu'eux, ils ont vu qui il était. La foule a vu en Jésus seulement quelqu'un qui leur donnait du pain matériel. Et finalement, il faut plus que ça pour qu'on puisse réaliser qui est Jésus. Plus que des miracles, finalement. Plus que des miracles. Il faut une révélation spéciale qui dépend ni de la chair ni du sang. Et on l'a vu dans le prologue de Jean, qui sont nés non de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Même Pierre, Jésus lui a dit... Quand Pierre lui dit « Mais tu es le Fils de Dieu », il dit « Mais ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, c'est mon Père. » Si ce matin tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, ça ne vient pas de toi. Ce n'est pas parce que tu as fait les études. Ce n'est pas parce que tu viens le dimanche matin écouter les prédications. Ça t'a été révélé. Et concernant les disciples, Jésus dit des choses fantastiques, hein. Sous une figure de langage appelée lilote, vous savez, litote. La litote, c'est qui va répéter sous une forme négative ce qui a été dit positivement juste avant. Écoutez bien. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et moi, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est une litote. Une litote. C'est mignon comme mot. Le mot dehors qui est employé ici, ça veut dire faire partir, jeter. Sous-entendu, je les jette dehors. Non, je les garderai. Je les préserverai. Je les garderai. Dieu est fidèle. Et ceux qui viennent à lui sont gardés. Ils sont préservés. Il y a une garantie là-derrière. On va aller jusqu'au bout. Parce que je ferai en sorte que vous alliez jusqu'au bout. Parce que je suis tout-puissant. Parce que je suis fidèle. Parce que je suis. Je suis. D'ailleurs, c'est ce que confirment les trois versets qui suivent. Car, introduit par car ou en effet, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté. Et ça y est, c'est reparti, comme dans les passages d'avant. Mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite le dernier jour. Je n'en perde aucun. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et qui croit en lui ait la vie éternelle. Et on est dans une conjugaison que Philippe nous a rappelée il y a quelques semaines, la aoriste, hein, et la vie éternelle. C'est que tu l'as déjà. C'est que aujourd'hui, nous avons la vie éternelle, nous qui avons cru dans le Fils de Dieu. Nous ne l'aurons pas à la fin. Nous l'avons maintenant. C'est fabuleux quand même. Et je le ressusciterai le dernier jour. Moi, ces versets m'ouvrent un peu l'appétit quand même. Il faut dire ce qui est. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et quand tu lis des paroles comme ça, ça t'ouvre l'appétit, ça te donne envie de croquer à pleines dents. La parole de Dieu, c'est une nourriture. Et je crois que si nous perdons l'appétit, nous l'avons perdu, il nous faut nous poser des questions. Parce que c'est important la fin de la parole de Dieu. Son absence finalement démasque finalement le christianisme de façade. Fade. Mais la lecture, le commentaire, le fait que le prédicateur prêche le dimanche matin, et c'est vrai que ces dernières semaines, il y a eu du travail. Et c'était bien. C'était même très bien. Mais tout ça, ça nous encourage, vous et moi, à regarder à Jésus. C'est censé aussi nous faire du bien. Ça nous fait du bien à notre cœur, à nos oreilles, à notre âme, etc. Mais en même temps, ça devrait nous ouvrir l'appétit. Le dimanche matin, c'est un moment qui devrait nous ouvrir l'appétit. Et pas nous nourrir. Je reviens au début. Nous ouvrir l'appétit. Est-ce que... Vous savez que j'ai travaillé pendant longtemps dans les boîtes de nuit. Discothèque. Vous savez comment on fait pour faire consommer les gens? Des boissons, alcoolisées ou pas. Vous savez ce qu'on fait? Dans les bars, on fait exactement pareil. D'ailleurs, je vous donne un indice. Quand les patrons de bar font ça, on les trouve sympas. Vous savez ce que c'est? C'est les cacahuètes. Mettez des cacahuètes sur une table. 20 minutes après, vous avez des commandes. Et si elles sont bien salées, c'est encore mieux. Ça donne soif. Les cacahuètes salées. Tu veux multiplier ton débit de boisson si tu as un bar, ben, au moment de l'apéro, mets des cacahuètes, mets des petits trucs salés là, tu vas voir. Ça va consommer. Ça va consommer. Mes amis, le dimanche matin... Nous avons les cacahuètes, peut-être des bonnes cacahuètes, mais des cacahuètes. C'est des cacahuètes. Vous êtes venus ce matin pour piocher dans les cacahuètes. C'est génial quand même. On ne se nourrit pas le dimanche matin pour le reste de la semaine, c'est pas possible, ça marche pas, ça marche pas. Comment garder, retrouver cette faim spirituelle? Et dans l'Église? Alexandre Solzhenitsyn, au temps du rideau de fer, disait « Je suis effrayé par le manque de faim spirituelle de l'Occident. » Je suis effrayé par le manque de faim spirituelle de l'Occident. Parce que même les cacahuètes ne sont plus là. Au niveau spirituel, hein. Comment garder ou retrouver cette faim spirituelle? D'abord, je pense qu'il nous faut ne pas oublier d'où l'on vient et ce qu'on a vécu, ce qu'on était avant. D'ailleurs, dans le texte, vous voyez bien que Jésus fait référence à quoi? À la manne. Deutéronome, souviens-toi. Deutéronome 8:2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant 40 années dans le désert. On a soif hein, dans le désert. Et leçon du désert, c'est de ne pas oublier le pain de la parole. Deutéronome 8:3. Il t'a humilié, il t'a fait connaître quoi? La faim. Et il t'a nourri de quoi? De la manne, que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connu, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort, toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et cette manne, elle était donnée au jour le jour. Au jour le jour. Pas une fois par semaine. Autrement, le désert, pour
pour marcher, dur. Hein, si tu bois qu'un verre d'eau pour la semaine et que tu manges quelques cacahuètes, à mon avis, tu ne vas pas tenir longtemps dans le désert. Hein. C'est pareil pour nous, mes amis. L'église locale le dimanche matin n'est pas le lieu où on se nourrit. Oui, on a un peu de nourriture. Plus ou moins bien. Il faut le dire, dans notre église, nous avons des tendances différentes. Nous avons un pôle qui aime bien tout ce qui est nature, tout ce qui est énergie, tout ce qui est... Il est impressionné par ça, par le soleil, par les étoiles. Nous avons un Yann, qui n'est pas là d'ailleurs ce matin, qui est intéressé par... Qui a un niveau intellectuel qui dépasse largement la moyenne de notre église. Et il a besoin de quelque chose. S'il devait se nourrir que le dimanche matin, il ferait comment ? Et chacun a sa particularité, chacun a ce qui le touche plus ou moins. Il y a un aspect de la personne de Jésus qui est importante pour ta vie. Et si on n'en parle qu'une fois par an, ben c'est la misère totale. Donc on a besoin de se nourrir autrement que le dimanche matin. Et je me parle. Et cette manne, qui était donnée tous les jours, rappelait à chaque fois la présence de Dieu. Et finalement, lorsque le pain du ciel n'est plus le pain du ciel, c'est le pain qu'on se fabrique, le pain du boulanger, tiré de notre travail. En d'autres termes, qu'est-ce que devient notre foi lorsqu'on se suffit à nous-mêmes ? Lorsqu'on vit sur ses acquis, qu'est-ce que devient notre foi ? Qu'est-ce que devient notre foi ? Même l'idée d'un bon culte, c'est... Il y en a un qui a comparé le bon culte à un bon vol. Vous savez, dans un avion, vous avez déjà pris l'avion. Des fois, ils ont du retard. Et vous êtes assis dans votre avion et vous avez toutes sortes de gens. Vous avez le groupe de dames qui sont là, ils vont je ne sais pas où, ils ont tout prévu pour leur week-end, elles ont laissé leur mari à la maison et puis elles partent. Puis il y a le gamin qui aimerait bien voir le pilote. Il va voir les hôtesses, là, les stewards, en disant « je peux voir le pilote ?» Puis il va voir le pilote et puis il sort de la cabine de pilotage. Il dit, pour lui, c'est le meilleur vol de sa vie. Par contre, il y a l'autre, on a 5 minutes de retard, il a le costard, là, il va râler pendant tout le long du voyage. Tout le long du voyage, il va râler. Et c'est pas ça, et patati, et patata, et on a du retard, et c'est pas... Vous avez tout ça dans un avion, vous avez l'image de l'église. Et t'as celui qui est allé voir le pilote, lui, pour lui, c'est un bon vol. Peut-être que nous devrions plutôt aller voir le pilote. Le pilote, hein. Pas les prédicateurs, le pilote. Ah là là. La terre promise a des allures de paradis. Deutéronome 8. En effet, l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays. C'est un pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées, dans les montagnes, un pays de blé, d'orge et de vigne, de figuiers, de grenadiers, un pays d'oliviers, de miel, un pays où tu mangeras du pain avec abondance. Et au milieu de cette abondance, il y a comme un petit clignotant qui est là, qui fait touc, 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 touc. N'oubliez pas l'expérience du désert. N'oubliez pas ce que vous étiez. N'oubliez pas dans quelles conditions vous avez vécu avant. Alors, dans le passage d'aujourd'hui, c'est très clair, hein, Jésus fait un parallèle entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, mais il nous rappelle surtout le lien très fort entre le pain de la parole de Dieu, il est la parole faite chair. Et dans la Bible, cette parole, c'est beaucoup plus que des mots. C'est beaucoup plus qu'un livre, qu'un texte sacré. La parole, c'est quelque chose qui nous transforme, c'est quelque chose qui nous change, qui change notre mentalité, notre façon de voir les choses, notre façon de vivre, notre façon de nous comporter, notre façon d'aimer. Et d'ailleurs, elle est tellement efficace, elle agit. Elle a agi par les prophètes. C'est la parole qui crée. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit et il en fut ainsi. Dieu dit. Et dans le prologue de Jean, qu'est-ce qui se passe? Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et elle était faite chair et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous l'avons contemplée, nous avons contemplé sa grâce comme cette grâce qui vient du Père. L'expérience de la parole que l'on mange, que l'on avale, qui nourrit l'homme, c'est aussi celle des prophètes. Les prophètes, au fond, finalement, c'est logique. Comment parler de la parole de Dieu si on ne l'a pas d'abord ingérée, on ne l'a pas digérée, assimilée? Ézéchiel, il m'a dit, Ézéchiel chapitre 2, souvenez-vous, il m'a dit, fils de l'homme, tiens-toi debout sur tes pieds et je te parlerai. Et pendant qu'il me parlait, l'Esprit est entré en moi et il m'a mis debout sur mes pieds. J'ai écouté celui qui me parlait. Et un peu plus loin, il m'a dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les Israélites, vers des nations rebelles. Et un peu plus loin, je t'envoie vers eux et tu leur diras, voici ce que dit le Seigneur, tu leur diras mes paroles. Et puis au verset 9, j'ai regardé, j'ai vu qu'une main était tendue vers moi. Elle tenait un livre, il l'a déroulé devant moi, écrit des deux côtés, il contenait des complaintes, des lamentations, des gémissements. Chapitre 3, verset 1, il m'a dit, fils de l'homme, mange ce qui est devant toi. Mange ce livre. Quel sandwich! Mange ce livre et va parler à la communauté d'Israël. J'ai ouvert ma bouche et il m'a donné ce livre à manger. Il m'a dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes intestins avec ce livre, celui que je te donne. Alors je l'ai avalé et dans ma bouche, il a été doux comme du miel. Vous voyez, Jésus, à quoi il fait référence? Quand on lit « Je suis le pain de vie », waouh! Manger la parole, accepter d'être nourri et d'être transformé par elle. Et le temps nous manque, on pourrait évoquer Ésaïe aussi, qui nous parle d'un festin. Car l'espérance biblique, elle se trouve aussi dans un festin auquel nous sommes invités. Ésaïe 55, « Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. » Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez, mangez, venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer, c'est gratuit. C'est la grâce. Payez. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Et il dit la même chose, Jésus. Vous travaillez pour la nourriture qui périt. Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents. Et sans appétit, le repas, ben, il est fade. On n'a pas le moral. Même en mangeant des bonnes choses, c'est vrai que c'est difficile de trouver le goût quand on est mal. Parfois, il nous faut juste ouvrir la bouche. Juste pour survivre. Parfois, il nous faut aussi refuser la nourriture des autres. C'est un peu comme le régime, tu sais. Tu n'arrives pas à faire le régime si tu manges entre les repas. Ça ne marche pas. Et c'est très mauvais de manger entre les repas. Et si tu manges des cochonneries, comme on dit, ben, c'est sûr que ton régime, ben, il faut faire des choix. Tu ne peux pas manger des pizzas tous les soirs et perdre du poids. Ça ne marche pas. Psaume 81, écoute mon peuple et je t'avertirai, Israël, si seulement tu m'écoutais. Qu'il n'y ait au milieu de toi aucun autre Dieu, ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Le livre des Proverbes que nous étudions aussi actuellement, on a fait Job, maintenant on fait les Proverbes. La sagesse a construit sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a abattu son bétail, mélangé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes. Elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville. Qui manque d'expérience ? Qui entre ici ? Elle dit, la sagesse, à ceux qui sont dépourvus de bon sens, « Venez manger de mon pain et boire du vin que j'ai mélangé. Abandonnez la naïveté et vous vivrez. Avancez sur la voie de l'intelligence. » Vous comprenez mieux maintenant ? C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient en moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et finalement, Jean, dans ce chapitre, il illustre quoi ? Dans son évangile, 1. La manne, le pain qui descend du ciel. 2. Le festin de la sagesse, évoqué dans le livre des Proverbes que nous venons de lire. Quels sont les aliments que la sagesse offre ? Et Paul fait le même parallèle dans Corinthiens 10. Le banquet messianique annoncé par Ésaïe, dont la Pâque, finalement, est quoi ? Une préfiguration. Lorsque nous prenons le pain et le vin le dimanche matin, c'est une préfiguration aussi de ce banquet messianique. L'agape, c'est une préfiguration de ce banquet messianique. Et de là, on peut parler de la communion qui suit. C'est fabuleux. Pour Jésus, l'image la plus courante du royaume de Dieu, c'est celle d'un banquet. Il y a toujours un banquet, il y a toujours un repas. La foule pensait que Jésus allait répéter les miracles de la multiplication de tous les jours et qu'ils n'auraient plus besoin de bosser. C'est bon, il est là, tous les jours il va nous multiplier 5 pains et 2 poissons et hop, et c'est parti. Mais non, non. Et c'est pour ça que Jésus oriente cette foule vers une autre pensée. Travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Que nous puissions méditer et pratiquer cette parole de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Je vais prier. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Seigneur, que ce dimanche matin, peut-être que ce qui a été évoqué, ce qui a été lu, puisse nous ouvrir l'appétit. Seigneur, ce n'est pas le dimanche matin qu'on se nourrit pour le reste de la semaine. Donne-nous de prendre conscience que nous devons prendre un repas par jour, au moins. Augmente notre faim de toi, notre faim de la parole. Seigneur, je sais que lorsqu'on doit ouvrir ta parole, tout à coup, 1000 choses dans notre tête viennent nous en empêcher. On a toujours quelque chose à faire. Seigneur, je pense que ce que je vis moi, c'est aussi ce que vivent mes frères et sœurs ici. Et je te prie vraiment pour que tu viennes nous aider à faire les bons choix, à choisir ta parole, à nous en nourrir. Merci parce que nous avons la Bible. Merci parce que nous avons ton esprit. Merci parce que nous avons ton Église. Amen.